Il est 11h sur la nouvelle génération. Nous sommes au mercredi 11 janvier de l'année de grâce 2023. Je suis très heureux de vous retrouver à ce troisième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Vous comprenez sans doute que nous sommes bien évidemment dans l'émission Club de la Presse. C'est donc parti à l'opo 90 minutes de décryptage, d'analyse et de commentaires de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur votre radio, la nouvelle génération Canal FM. L'émission Club de la Presse, c'est avec le trio Pascal Lousseau au micro, Michel Kokou, Vitok Bitomega à la technique et Jérôme Akoucha à la mise en onde. Vous avez la possibilité alors de suivre cette émission sur nos différentes plateformes numériques, notamment sur le www.canalfm.com. Et si vous nous écoutez à l'intérieur du pays, sachez que c'est grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Club de la Presse, c'est avec des confrères journalistes en studio et aussi l'invité du jour, des confrères journalistes qui s'installent déjà et je ne vais même pas les laisser s'installer d'abord avant de leur souhaiter la bienvenue. Rapidement, Estelle Koudzonou, bonjour.
Pascal, bonjour aux confrères en studio. Bonjour madame l'invitée, que je laisse le soin au présentateur de citer énormément. Et bonne et heureuse année à tous les auditeurs et auditrices. C'est ma première fois de venir au Club de la Presse cette année. Donc, que l'année, nous l'espérons, s'est annoncée sous de bons auspices et que restons positifs.
Oui, je pense que c'est le cas également. C'est le cas également pour tout le monde dans le studio, c'est-à-dire les confrères qui sont avec nous. C'est leur première fois d'être alors dans le studio pour cette année 2023. Abbas Issaka ne me démentira pas.
Non, c'est la première fois.
Voilà.
Donc, on va présenter tous nos voeux de santé, surtout de santé. À tous les auditeurs au disciples de Canal FM.
Oui.
Après la santé, je pense que le reste va venir. Parce que s'il n'y a pas de santé, on peut avoir tout, mais sans la santé, on ne pourra rien faire.
Voilà.
Bonjour à tout le monde et bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Et bonjour à toi aussi, Sylvestre Béni. Je pense que c'est le plus béni des journalistes.
Le seul béni d'ailleurs de la corporation, je crois qu'il faut préciser cela. Le seul béni de la corporation, c'est pas à discuter. Alors non, je profite également de l'occasion pour souhaiter une nouvelle meilleure donc aux éditeurs et auditrices donc de Canal FM. Je crois que j'avais dit quelque chose à la fin de l'année, deux mots, pardon et merci. Pardon pour toutes les fois que nous avons peut-être tenu des positions qui ont quelque peu peut-être gêné certains, mais il faudrait quand même qu'on puisse également nous comprendre. Et donc, merci pour ceux qui nous ont quand même témoigné de la considération pour toutes les fois également que nous avons tenu des propositions qui ont plu à certains. Donc, cette année, nous allons mieux faire pour que nous soyons mieux appréciés et qu'on ait beaucoup plus de merci.
Merci beaucoup à vous. Fabrice Paton-Pétizi, bonjour.
Bonjour à toi et bonjour aux confrères ici présents. Bonjour à l'invité, bonjour aux auditeurs. Bon, oui, c'est un enchaînement pour moi, hein. Rien n'a changé, la vie continue.
C'est peut-être que c'est sur le calendrier, l'année a changé. Nous étions hier 2022, aujourd'hui 2023.
Ouais, bon, on reste toujours dans la même logique avec l'espoir de mieux servir les auditeurs.
Justement.
Par nos analyses et critiques. Nous ne demandons pas à tout le monde d'apprécier forcément, même le bon Dieu n'a pas tout le monde derrière lui, donc qu'en est-il d'un être un...
Le bon Dieu a même des adversaires. Ok, vous l'avez cité déjà, notre invité à l'heure du jour, c'est Madame Brigitte Kafouyadza-Magbo-Johnson. Madame, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice à l'heure de la DMK Dynamique, Monseigneur Kodro. Vous êtes dans ce studio et c'est pour la première fois également dans cette année 2023. Oui. Et vous aurez surtout quelque chose à dire à vos compatriotes.
Absolument, absolument. Et c'est un plaisir pour moi de souhaiter... à mon tour, les meilleurs voeux hein, à mes compatriotes, hommes comme femmes, de tous âges. Hein, d'abord, des voeux de santé, Et pour nous, Togolais, c'est important hein, d'être en bonne santé. Hein. Quand on sait les difficultés que nous avons pour nous soigner, être en bonne santé est quelque chose de précieux. Donc, je le souhaite à tout le monde. Je souhaite la paix du cœur, la paix dans nos maisons, mais aussi, je souhaite qu'en 2023, qui est une année symbolique pour nous, Togolais, que nous trouvions la force de continuer à nous battre et, je dirais, de réaliser une avancée qualitative pour changer notre pays en un pays véritablement démocratique. Un pays dans lequel les citoyens exercent effectivement leur droit de choisir leurs dirigeants, des dirigeants qui travaillent d'abord pour leurs intérêts, qui sont au service des Togolais. Un pays où nous n'avons pas peur, où nous sommes libres et où nous comportons quand même en citoyens responsables, parce que la démocratie, c'est pas l'anarchie, en citoyens responsables et où vraiment il fait bon vivre. Voilà.
Voilà, merci beaucoup alors pour vos vœux aux Togolais et vous êtes en ce studio et alors avec nous sur surtout le sujet alors du meeting que vous organisez le samedi 14 janvier prochain, c'est-à-dire le samedi dans quelques jours. Et nous reviendrons alors sur le sujet dans cette émission, largement même d'ailleurs avec les questions des confrères journalistes. Mais nous commençons cette émission avec son premier sujet, le premier sujet que j'aimerais introduire pardon, avec ceci.
Même s'il y a le professeur en classe, nous on s'en fout. Ouais, non. Il est là, mais nous on s'en fout, quoi. École missionnaire. Gang, gang, gang. Monsieur, vous êtes dans quoi?
Même s'il y a des professeurs ou le professeur en classe, nous on s'en fout. C'est un élève alors qui réagissait à travers une vidéo de 17 secondes et c'est en plein cours bien évidemment. C'est l'élève Afanvi Komlan Loki en classe de terminale A4C pardon, lycée Kara 1. Et la conséquence est tombée bien évidemment depuis hier, il est exclu. Il est exclu alors de tous les établissements scolaires alors de la région de Kara. Estelle, alors quand on prend cette réaction de l'élève et par rapport aussi à cette sanction, on dirait tout simplement que l'élève l'a mérité.
Moi, j'ai eu un sentiment un peu mitigé par rapport à la sanction qui a été appliquée à l'enfant. En ce sens que c'est une bévue que l'enfant a commise et pour la sanction je me demande si elle est proportionnelle par rapport à ce que l'enfant a commis comme faute. Et d'abord la décision est signée par le directeur régional de Kara. J'ai lu sur la toile qu'il devait être exclu sur toute l'étendue du territoire national. Bon, en termes un peu plus juridiques, Il ne peut exercer que dans les limites de son territoire de compétence, qui est la région de Kara. Du coup, cette décision ne peut pas s'appliquer sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, l'exclure de...
C'est dans sa région.
C'est dans sa région.
Justement.
Dans la région de Kara. Ça ne peut pas s'appliquer sur toute l'étendue du territoire, mais voilà, dans sa région. C'est la région de Kara.
C'est ce qu'il a précisé.
Justement. Et donc, l'exclure maintenant de cet établissement lui permet quand même d'aller s'inscrire ailleurs, hors de la région de Kara. Il peut s'inscrire dans un autre établissement
tout à fait.
Qui n'est pas du ressort territorial de la région de Kara. Mais l'envoyer ailleurs, est-ce à dire qu'on a réussi quand même à le redresser? C'est l'interrogation que moi je me pose. Est-ce que la solution est trouvée? On remarque clairement qu'il y a un manque d'éducation. L'école, c'est un centre de formation. C'est vrai que les parents ont un rôle à jouer en amont. Si l'élève en est arrivé là, il faut dire que les responsabilités sont partagées. Quelle éducation a-t-il reçu de ses parents? Est-ce que c'est lui-même qui est un peu têtu? Quel est le rôle de ces enseignants-là? Quel est le rôle de l'établissement dans sa vie? Et ça reste des interrogations. Pour moi, la correction devait être dirigée dans le sens où, bon, pourquoi ne pas lui appliquer peut-être une leçon d'éducation civique et morale qu'il répète à tout bout de champ, qu'il recopie 10 000 fois? on le fait circuler dans toutes les salles de classe, qu'il répète à ses confrères. Et il vient présenter des excuses et on lui demande de... Enfin, des tâches au niveau de l'établissement. On lui demande de faire des merveilles dans la matière du professeur en question et d'obtenir une moyenne qu'on lui fixe pour pouvoir le redresser et lui apprendre en fait qu'à l'école, on ne s'amuse pas comme bon le semble, surtout que l'enseignant également était dans la classe et qu'il n'a pas su réagir ou n'a pas pu réagir. C'est qu'il mettait d'abord à terre l'autorité de cet enseignant-là. Et sincèrement, je ne sais pas, en l'excluant de CARA, si on arrive à vraiment le redresser ou l'école se désolidarise ou rejette plutôt sa responsabilité. Donc ça reste moi ma question, ça reste également mon point de vue sur la sanction qui lui a été appliquée.
Abbas, est-ce que vous êtes également du même avis que la sanction n'est pas proportionnelle quand même à l'infraction commise?
La sanction, qu'elle soit proportionnelle ou pas, il faut qu'elle soit exemplaire. Moi, je vais du côté de la conscience de l'enfant. Il est en classe de terminale. Il a fréquenté, ce qui veut dire que tout ce que ses parents ont fait jusqu'ici là, ce n'est pas son problème. Il n'est pas conscient de son avenir. Et il se permet de perdre ses parents comme ça. C'est-à-dire que tout ce que mes parents ont investi, ce que j'ai suivi jusqu'à ce moment-là, ça ne le concerne. Donc il faudrait que cet enfant-là soit beaucoup plus moralisé, parce que quand vous avez vu la vidéo, il y avait l'autre qui est devant lui qui n'était pas du tout content de ce qu'il disait. Ce qui veut dire
et il ne voulait même pas s'afficher dans la vidéo.
Il ne voulait pas s'afficher à la vidéo. Donc lui, il a pris la vidéo, il a fait un selfie. Je sais qu'il y a beaucoup qui le font dans des années où il n'y avait pas nos iPhone, nos téléphones comme ça.
Tout à fait.
Mais ici, lorsque vous prenez ça, c'est que vous affichez. Il faut que la correction soit exemplaire. Et moi, la correction a été exemplaire. La sanction, moi, je la soutiens. Mais là, il appartient aux éducateurs de bien sensibiliser aussi les élèves dans les établissements pour dire que vous êtes ici, c'est pour fréquenter. Les parents investissent beaucoup d'argent pour vous. Vous n'avez pas à vous amuser. Donc, lorsque on surprend quelqu'un en train de faire ce genre de choses, c'est que la sanction serait plus rude. Ce serait au moins sur le plan national, tout le territoire national. Mais on se permet, parce que les enfants là-dessus, on ne les corrige pas. Puis on a dit, on a supprimé le bâton. Le maître ne peut même plus dire à un enfant, puisque aujourd'hui, quand vous prenez ces enfants, c'est qu'ils sont égaux avec leurs enseignants. Très souvent, c'est eux-mêmes qui invitent leurs enseignants à venir s'asseoir à côté de prendre une bière, prendre un verre. Or, vous savez, nous, à notre temps, là, quand tu vois ton enseignant, tu vas prendre la fuite.
Tout à fait.
Tu vas prendre la fuite. Moi, madame qui est ici a été mon enseignante à l'université, en droit. Donc, je sais que quand moi, je la vois, je la respecte en tant que telle.
Tout à fait.
Je ne peux pas chanter des bêtises en sa présence pour dire que, Chicha, est-ce que tu as vu ce qui se passe? Non. Du respect pour les parents, du respect aussi pour l'enseignant qui est dans la classe. Si l'enseignant n'était pas dans la classe, je dirais que la sanction n'est pas proposée. Mais l'enseignant est dans la classe. L'enfant a manqué du respect à l'enseignant. Il a manqué du respect à l'autorité. La dernière fois, c'est le ministre des droits de l'homme et de la formation civile qui nous disait qu'il faut respecter aussi les emblèmes et les autorités du pays. Tout ce que l'enfant a posé compte, et il faut qu'il soit corrigé. Et la sanction était moi. Je ne dis pas qu'elle est proportionnelle ou pas, mais c'est que la sanction, il faut qu'elle y ait pour qu'on montre un bon exemple aux enfants.
Il faut que la sanction y ait pour qu'on montre vraiment un bon exemple à nos enfants. Fabrice, c'est vrai, quand on voit même d'ailleurs l'utilisation alors du portable, parce que c'est sur le portable qu'il a fait même d'ailleurs sa vidéo, et l'a envoyé sur les réseaux sociaux. Et tel que Abbas l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a des choses qui se faisaient comme cela, mais qui ne se retrouvaient peut-être pas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la question même d'ailleurs de l'utilisation du téléphone portable à l'école aussi s'invite dans le débat.
Oui, c'est le détail, les réseaux sociaux, je crois que c'est le détail dans cette affaire. Sinon, pour ceux qui ont eu quand même à avoir un cursus scolaire du primaire jusqu'à l'université. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui peuvent témoigner qu'il y a eu pire que ça. Mais sauf que c'est resté parfois en classe. Mais ici, le problème, c'est que d'abord, le portable est interdit à l'école. Donc, il vient avec le portable. Et je ne sais pas si c'est lui qui a balancé l'image sur les réseaux sociaux ou il l'a envoyé à un ami qui l'a fait. Mais de toutes les façons, c'est qu'il n'a pas mesuré un peu l'ampleur de ce qu'il allait se faire. Parce que ce qu'il a fait, en temps normal, si on n'avait pas retrouvé ça sur les réseaux sociaux, la sanction, c'est quoi? Si le professeur est au courant, on le sort, on l'envoie au surveillant, on lui colle une punition, soit peut-être il lave les toilettes pendant une semaine ou je ne sais quoi. De toutes les façons, il y a le règlement intérieur est là, ses élèves qu'on qualifie entre griffes de pagailleurs. Et vous voyez un peu l'ambiance dans la classe. Tout porte à croire que le prof même ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais cet élève, il s'est exposé, mais il a aussi exposé l'enseignant indirectement. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment l'enseignant est dans une salle où ça jacasse, ça bavarde, ça parle comme ceci, comme cela. Ça voudrait dire que, quelque part, l'enseignant, il y a un problème d'autorité. Parce que nous, on a été élèves, il y a des enseignants, quand on sait que c'est son heure, ben, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres, le silence règne même avant qu'il n'arrive en classe. Donc aujourd'hui, les détails dans tout ça, c'est pour cela que je dis, la sanction, en réalité, ce qu'il a fait, effectivement, la sanction n'est pas professionnelle. Mais quand on prend le détail, puisque qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On allait essayer de décrire à ses parents ce qu'il a fait en classe. Bon voilà, le prof est venu, il bavardait et tout cela, on comprendrait. Mais aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'expliquer ce qu'il a fait. Puisque ce qu'il a fait lui-même, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, tout le monde voit, et ça a provoqué un tollé général, d'où cette sanction exemplaire qu'on lui a donnée pour que ça serve de leçon à tous les autres. Et je crois que c'est un peu cela, le sens de la sanction qui a été donnée, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on dit, pauvre parent, on dira, il est mal éduqué, mais bon, ça fait mal quand vous êtes parent, peut-être que vous avez 3 ou 4 enfants, tout le monde se comporte bien, pour un truc comme ça, on va vous traiter d'un parent qui a raté l'éducation de son enfant, vous voyez un peu. Donc, je crois que aujourd'hui, même quand vous prenez ces enfants-là, lui, il est élève, juste qu'il n'a même pas encore 20 ans, il est très précoce. Bon, on dit qu'il est, bon, heureusement que c'est seulement à Cara. J'espère que dans les coulisses, il y aura peut-être des négociations pour qu'il reprenne les cours, parce qu'effectivement, à son âge, quand on le renvoie à la rue, vous voyez le type de citoyen qu'on risque de récolter à l'avenir.
Tout à fait.
C'est un peu cela. Et aujourd'hui, nous tous qui crions, c'est nous qui donnons ce mauvais exemple-là aux enfants. Moi, je connais des vieilles mamans, des vieux papas qui font des conneries pires comme cela sur les réseaux sociaux. Les enfants regardent et ils essayent d'imiter. C'est un peu cela. Aujourd'hui, ça provoque un tollé général parce que c'est dans une classe. Mais je crois que tous les élèves doivent le comprendre. On ne vient pas à l'école avec un portable. Et quand vous utilisez ce portable-là, il faut savoir que la question des réseaux sociaux, c'est très délicat. Je suis d'accord, il faut une sanction exemplaire pour que ça serve de leçon aux autres. Mais effectivement, quelque part, il ne faut pas complètement jeter cet élève parce que c'est quand même un citoyen qu'il faut redresser. Parce que si il y a un adage qui dit que quand on ferme une école, on ouvre 10 pions. Imaginez que cet élève-là, l'ascension s'étend sur l'ensemble du territoire. Il arrête les classes en terminale. Peut-être qu'il ne continue plus. On fabrique un rebelle pour demain. Pour moi, on peut le redresser. On peut le redresser avec des punitions exemplaires. Mais je suis d'accord qu'on brandit cette sanction-là aux yeux de tout le monde pour que les autres élèves tirent des leçons. Mais je suis sûr que dans les négociations, quelque part, on ne va pas le laisser comme ça à la maison, mais on doit lui coller une punition pour qu'il ne soit pas un raté demain.
Merci beaucoup Fabrice. Sylvestre, alors, tout comme Fabrice, est-ce que, c'est vrai, on peut le redresser, mais quel type alors de redressement ou quel type alors de sanction on lui donnerait et qui soit peut-être, qui soit proportionnel à ce qu'il a fait?
Non, tu aimes quand même ce terme, l'improportionnel. Non, moi, je ne vais pas, je ne saurais le dire. Hein, mais ce que je constate, c'est que l'élève à Fanvi a commis une double faute. D'abord, il a introduit un téléphone portable en classe, qui est interdit dans le système depuis 3 ou 4 ans déjà. Maintenant, il a fait une vidéo et qu'il a balancé ensuite sur les réseaux sociaux.
On ne sait pas si c'est lui qui a balancé.
Peut-être voilà, qui s'est retrouvé, disons, qui s'est retrouvé sur les
justement.
Maintenant, les termes, le contenu même du message. Nous sommes à cas, on s'en fout, même si le professeur est là, nous on s'en fout. Vous voyez? Et il filme d'ailleurs le professeur. Et il a même essayé de perturber le courant en disant Monsieur, c'est dans quoi? Alors voilà. Qu'il ne suivait même pas. Vous voyez? Donc, quand on prend tous ces éléments de bout en bout, on peut dire que l'ascension, cela justifie un peu l'ascension. Mais je crois qu'on peut trouver également des situations atténuantes pour cet élève-là. Il est en classe des amis, il est intervenant. Tout ce qui se passe actuellement, c'est une torture psychologique et pour lui et pour ses parents. Parce que, bon, un élève qui est sorti à Sinioulo, et maintenant on fait une émission sur cet élève-là. Ses parents peut-être sont là, qui écoutent. C'est une torture psychologique, moi, je pense. Maintenant, pour l'instant, c'est la région de la Cara qui a pris l'ascension. Peut-être que le ministère aussi peut s'auto-saisir et casser l'addition. C'est possible.
C'est possible.
Donc, c'est pourquoi moi je dis, pour l'heure, c'est vrai, ce qu'il a fait n'est pas digne d'un élève qui est en classe de terminale et qui est peut-être à quelques semaines, disons, donc, de l'université. Donc, mais il faudrait quand même qu'on puisse le récupérer, quoi. Le récupérer. Sinon, peut-être cet élève-là, ce serait le terminus, peut-être, de son cursus. Avec cet événement-là, ouais. Il peut décider maintenant de ne plus continuer. Et là, on a peut-être, je ne sais pas, souffrant peut-être du terme, on aura un de perdu, quoi, un brigand de prise, je ne sais pas. Parce que si on n'arrive pas à le redresser, on le perdrait tout de suite. Donc, demandons quand même à l'autorité, on va plaider quand même sa cause. Il faut qu'on trouve des situations atténuantes pour lui et il y aura peut-être 1000 sanctions à appliquer pour lui. Pour qu'il puisse reprendre peut-être dans les semaines à venir, pourquoi pas.
Merci beaucoup. Madame Brigitte Kafia-Diamagbo, vous êtes enseignante aussi, bien évidemment, et vous avez suivi un tout petit peu cette actualité. Pour vous, et, je ne sais pas si je dois encore utiliser mon thème tel que Sylvestre le dit, toujours est-il que on devait plutôt alors donner une autre sanction qui ne soit peut-être pas de l'exclusion?
Bon, moi, je pense que ce qui s'est passé illustre un peu la situation que nous avons dans notre système éducatif. En amont, je voudrais d'abord poser la question de savoir, est-ce que les enseignants aujourd'hui ont vraiment les moyens? Ils sont dans les conditions pour assurer la discipline? Dans les classes. Je veux faire allusion, par exemple, à l'effectif qui est parfois tellement important que un seul enseignant, l'enseignant ne peut rien contrôler. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi cet enseignant n'avait pas réagi. C'est lui le premier responsable de la discipline. Et je ne me vois pas en tant qu'enseignante tolérer ce genre de comportement dans une salle de classe. Donc, il faut aujourd'hui faire en sorte que non seulement les enseignants retrouvent une certaine autorité, et c'est lié à beaucoup de choses. C'est quoi les conditions dans lesquelles ces enseignants vivent et travaillent, comment ils se présentent à l'école? Tout ça compte, tout ça en impose aux élèves. Ensuite, il y a, je pense qu'il faut le dire, cette sanction n'était pas indispensable. On aurait pu trouver d'autres sanctions alternatives qui soient plus pédagogiques tout en donnant l'exemple aux autres pour faire en sorte que les autres élèves se disent « Ah non, il ne faut pas surtout que je m'engage dans cette voie-là, sinon je risque d'être sanctionné aussi. » Mais des sanctions qui tiennent compte du fait que cet élève est quand même en année en classe terminale, donc a un examen en fin d'année. Vous imaginez maintenant ce qui va se passer? Les pauvres parents, encore faut-il qu'ils en aient les moyens, S'ils veulent l'inscrire dans une autre région, il faut trouver à le loger, il faut lui envoyer son repas, de quoi assurer ses repas quotidiens, s'assurer qu'il est encadré et tout ça. Je crois que c'est antipédagogique, à mon avis, un peu ce qui a été fait. On pouvait saisir ce portable d'office, saisir le portable et ne plus le lui remettre. Estelle a parlé, a évoqué des sanctions qui, à mon avis, sont plus pédagogiques. Mais il y a quand même quelque chose à faire dans le système éducatif togolais et il faut vite s'y mettre.
Essaye.
Oui, et m'appesantissant sur l'analyse de madame, est-ce qu'il ne faut pas relancer même le débat de l'utilisation du portable, mettre au goût du jour cette décision qui avait été prise, et puis le règlement intérieur de chaque établissement? Je ne sais pas si les élèves en ont toujours conscience aujourd'hui. Il faut divulguer ça, il faut en parler. Parfois, ça s'affiche même sur le tableau d'affichage, mais on a quand même l'impression, bon, les élèves d'aujourd'hui, ils se foutent un peu de tout, ils ne craignent personne, ils font ce qui leur passe par la tête. Je crois qu'il faut beaucoup plus de rigueur, c'est vraiment important. Et si madame dit, est-ce que les élèves ont tous les enseignants aujourd'hui et toutes les conditions pour pouvoir, je crois qu'il faut imposer également son autorité. Peu importe les conditions, si on accepte déjà d'être enseignant, c'est qu'on a déjà pris un engagement et on se doit de respecter cet engagement-là en éduquant les élèves, en les redressant en cas de cas s'il y a quoi.
Il faut la rigueur et la discipline, surtout alors dans les salles de classe, telles que vous l'avez dit. Alors, nous allons rapidement quitter ce sujet. Nous allons aborder un autre sujet. C'est le sujet concernant la libération des 46 soldats ivoiriens. Depuis le samedi, ces soldats 46 ont regagné la Côte d'Ivoire et c'est sous la médiation du président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, que cette libération a eu lieu. Finalement, Abbas, nous pouvons dire que c'est une diplomatie gagnante alors de Faure Gnassingbé qui a fait en quelque sorte libérer ces 46 soldats.
Oui, effectivement, c'est une diplomatie gagnante parce qu'au départ, vu la manière dont les choses se passaient entre la Côte d'Ivoire et le Mali, on ne s'attendait pas qu'il y ait une entente parce qu'il y avait, après tout, la CEDEAO qui est rentrée dans les affaires. Puisque pour la médiation, il y avait une proposition qui était venue de Guillaume Soro, que c'est Faure Gnassingbé qui pouvait entrer dans cette médiation entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et après, c'est le Mali qui a sollicité le chef de l'État togolais qui est allé. On a vu le palais diplomatique qui s'était organisé par Robert Doucet tous les jours. Il est presque là à Bamako pour faire les choses. Et après, c'est devenu des menaces au niveau de la CEDEAO qui, tout dernièrement, a donné un ultimatum à Bamako pour dire que si d'ici le 31 décembre, les 46 soldats ne sont pas libérés, il y aura la sanction. Alors qu'au même moment, il y avait une diplomatie qui était en train de se passer. Donc il ne fallait même pas aller jusqu'à ce point de menace. Parce qu'on sait que ces menaces-là, lorsqu'il y a dialogue et médiation, on ne peut pas mettre les muscles. Il faut aller par la tête pour convaincre. Et le Mali dit, n'a pas apprécié ça. Et il dit, bon, puisque la procédure est faite que si les gens sont accusés de quelque chose, il faudrait qu'on sache de quoi ils sont accusés. Et la justice a ouvert une enquête sur cette affaire, leur présence à Bamako. L'enquête a abouti jusqu'à au niveau de l'instruction. On a dit qu'ils sont coupables de quelque chose. Donc, il fallait les juger. On ne peut pas immédiatement les relâcher sans passer par un jugement. Une grâce présidentielle ne peut pas se passer sans un jugement au préalable. S'il n'y a pas de condamnation, on ne peut pas avoir de grâce présidentielle. Et c'est ce que le Mali a tenu à faire pour montrer que, au moins, nous, à notre niveau, la justice a fait son travail. Mais comme il y a la diplomatie et la politique qui sont rentrées dedans, nous allons faire de telle sorte qu'on fasse la grâce présidentielle. Et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, c'est la médiation togolaise qui a gagné. Faure Gnassingbé et son ministre de des Affaires étrangères qui sont beaucoup impliqués dans cette affaire, ils sont à féliciter parce que sans eux, je ne pense pas qu'on arriverait à ce moment-là. Et la preuve, c'est que par après, il y a le président ivoirien Alassane Ouattara qui, dans son discours de fin d'année, a remercié le chef de l'État pour sa médiation. Et également, le Malien aussi a félicité le chef de l'État. Et à leur arrivée ici, lorsqu'ils ont transité par le Togo pour aller, les carencés militaires pour aller en Côte d'Ivoire, il y a aussi ces remerciements. Il y a la CEDEAO qui a échoué dans cette affaire, a aussi présenté ses félicitations au chef de l'État togolais, ce qui veut dire que c'était une médiation beaucoup gagnante, donc il faut les encourager. Donc moi j'ai dit que dans ces affaires, il ne faut pas mettre les muscles, il faut que la médiation, s'il y a un dialogue là, que le dialogue puisse avoir autorité surtout, que de mettre les menaces, on dit que si vous ne faites pas ceci, on ne fait pas cela. Et vous avez vu, c'était cette médiation là qui a mené à la libération des trois femmes
effectivement
qui sont passées par ici. Donc tout ceci là, si Alassane Ouattara a voulu faire des menaces, c'est pas normal, parce qu'après avant il avait voulu récupérer ça et il a demandé à la CEDEAO d'intervenir. Il y a des sommets de la CEDEAO qui sont les chefs d'État sont retrouvés, mais ils n'ont pas trouvé de solution. Et finalement l'affaire Zondikub, c'est le chef de l'État togolais qui peut continuer cette médiation pour avoir quelque chose. Et c'est ça que nous avons eu.
Et c'est ça que nous avons eu. Alors, il y a la dépêche qui titre sa une ce matin par rapport surtout à ce sujet. Libération des 49 soldats ivoiriens. Fonia Simbi a réussi là où la CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine et l'OTAN ont échoué. Sylvestre, est-ce que vous êtes dans la même lignée déjà de ce titre?
Non, écoutez, lorsqu'on nous dit une diplomatie gagnante, la question que nous devons nous poser, c'est qui gagne en fait? Qui gagne? Pascal, toi et moi, qu'est-ce que nous avons gagné de ce qui s'est fait la dernière fois? Rien. Alors, qui a gagné véritablement? Il faut s'y consiste là. C'est le régime togolais qui gagne. C'est le régime togolais qui gagne en termes de crédibilité à l'extérieur du pays. Parce que, vous savez, la vallée de les choses se passe ici. À l'intérieur, le régime souffre de légitimité. Maintenant, il faut aller chercher cette légitimité-là au-delà de nos frontières. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pas nouveau. Lorsque vous regardez au temps donc du général Yadema Péasonan, vous verrez que c'était le père donc de la médiation au niveau de la sous-région. Il était au Libéria, en Sierra Leone et tout ça. C'est Yadema qui était au fourreau moulin. Maintenant, il n'est pas là. Bon, son fils qui est au pouvoir, donc il reprend le flambeau. C'est pourquoi on dit généralement chez nous que les animaux rampants n'agent pas de volatiles. Hein, bon, on va pas me dire quoi. Vous voyez? Donc, c'est cela. Donc, les Togolais, bon, depuis là, j'écoutais la diplomatie gagnante, le Togo a gagné, le Togo a gagné, au moins, toi et moi, nous devons quand même nous réjouir qu'il y a quelque chose. Non, c'est en fait le régime qui a gagné. Voilà. Bon, le régime a gagné, ben bon. Peut-être que c'est les Togolais qui peut-être ont un peu souffert, puisque c'est les kérosènes qui ont été brûlés et c'est le contribuable togolais qui a payé.
Fabrice, alors c'est vrai que la question vraiment est de savoir qu'est-ce que le Togo gagne alors dans cette diplomatie, hein, cette diplomatie qui a eu déjà un dénouement très 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 heureux d'ailleurs dans cette affaire, puisque les 46 ont été libérés. Finalement, qu'est-ce que le Togo gagne?
Oui, je ne sais pas si vous avez écouté le communiqué 043 de la junte militaire qui annonçait la grâce présidentielle à l'endroit à des 46 militaires. Vous avez vu que les relations sont restées un peu toujours. Ils ont carrément fustigé Ambalo, qui est président de la commission de la CEDEAO. Ils l'ont fustigé carrément. Et donc, cela suppose tout simplement qu'en réalité, sur ce genre d'affaires, généralement, c'est la CEDEAO qui prend le devant. Mais les Maliens ont tout fait pour carrément, je ne sais pas. C'est-à-dire que ils ont complètement affaibli la CEDEAO dans cette situation. La CEDEAO n'a plus de voix. Et c'est là où le Togo remonte. Bon, c'est vrai que sur le plan national, peut-être qu'on peut faire le débat pour dire que c'est le régime qui gagne. Mais je ne sais pas, vous avez suivi les émissions même organisées sur la chaîne internationale. On dit la médiation du Togo. Donc forcément,
quelque part aujourd'hui, que ce soit un Ivoirien ou un Malien, c'est que c'est le Togo, c'est grâce au Togo que cette histoire-là a pu se régler. Bon, Faure Gnassingbé, il est en droit de réajuster son costume de médiateur, hein. Qu'on l'aime ou pas, de toutes les façons, il a réussi quelque chose. Donc, c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose de cueilli, c'est un fait. Et les faits sont têtus. Quelle que soit votre analyse, aussi scientifique qu'elle soit, vous ne pouvez pas modifier les faits. C'est lui, et c'est pas lui qui dit, c'est pas Faure Gnassingbé qui dit que c'est moi qui ai réussi la médiation. Les Maliens l'ont dit, les Ivoiriens également l'ont dit. Donc bon, qui sommes-nous pour dire que bon, c'est autre chose. C'est un fait, c'est lui qui l'a réussi. On n'est pas obligé de l'aimer, mais il faut reconnaître que sur ce coup-là, il a réussi cette médiation. Le Mali a profité de... On se demandait comment ça allait se finir. Le Mali a profité de l'occasion pour régler ce problème. Les gagnants, les 46 militaires, quels devaient être leur sort, ils ont regagné leur pays. Mais diplomatiquement parlant, c'est qu'effectivement, pour une fois, on n'a pas parlé de Faure Gnassingbé en termes de « bon, voilà, il a fait ceci, il a pris le pouvoir par force ». On dit qu'il a réussi une médiation et c'est tout ce que les journaux ont fait de rapporter. Donc, il n'y a pas à tergiverser du midi à 14h. C'est lui qui a réussi la médiation. C'est pas Faure qui le dit. C'est les Maliens qui l'ont dit. C'est les Ivoiriens qui l'ont dit. Et c'est la communauté internationale qui le dit à travers les grands médias. C'est tout.
Est-ce que vous pensez aussi que la CEDEAO est sortie affaiblie de cette situation?
Mais La remarque est claire, puisque, comme on le dit, c'est la CEDEAO qui devait prendre le devant de cette médiation et régler le problème. Mais c'est un fiasco. On va pas mâcher les mots. Le président togolais s'est impliqué depuis le début de la crise et on a connu un aboutissement heureux. Bon, ça va tout va à l'intérêt, pour l'intérêt du Togo, sur qui se repositionne en matière de diplomatie et dans le contexte sous-régional et pourquoi pas sur le plan international. Mais maintenant reste à peut-être à appliquer également les retours de cette bonne diplomatie sur le plan national pour satisfaire également les populations, c'est tout. Sinon, comme on le dit, les faits sont là. C'est les différents protagonistes qui l'ont dit. On n'a fait que relayer, on n'a fait que le reprendre. Je n'ai attendu nullement. Et quelque part, le président voulait dire « c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait ». Bon, ce sont les faits, on ne fait que rapporter, c'est un peu ça. La CEDEAO a lamentablement échoué, et c'est la diplomatie togolaise qui a réussi.
Et c'est la diplomatie togolaise qui a réussi, pardon. Abbas, finalement, qu'est-ce qui a milité en faveur alors du Togo, dans cette diplomatie même d'ailleurs?
Bon, selon les informations, c'est qu'il y avait de bonnes relations entre le chef de l'État. Vous avez vu quand... la CEDEAO prenait ses décisions contre le Mali.
Oui.
Pour une première fois, c'est le chef de l'État togolais seulement qui se... Alors que il était interdit d'atterrir au Mali là-bas, mais le chef de l'État togolais s'est retrouvé là-bas et il a continué par négocier la levée de ces sanctions-là au niveau de la CEDEAO. Je pense que c'est à partir de là qu'une crise de confiance et une confiance est née entre le chef de l'État togolais et la junte malienne. Et finalement, la junte malienne a fait plus confiance au chef de l'État togolais que la CEDEAO qui est décriée même depuis un certain temps, depuis qu'on a vu ces coups d'État apparaître un peu partout. La CEDEAO est totalement décriée. Et la CEDEAO a préféré, le Mali a préféré faire confiance au Togo et à son chef d'État qui a continué ce balai diplomatique par la voie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères qui va, et on a parlé même de l'amitié, même avant l'arrivée de de l'agenda de Goïta au pouvoir, il y avait une amitié qui y avait entre le chef de la diplomatie togolaise et Goïta. Donc tout ceci-là a contribué, parce que quand vous voulez faire quelque chose et que on n'a pas confiance en vous, ça ne peut pas passer. Et les balais diplomatiques qui se souperaient entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ces balais-là ont permis au moins d'avoir quelque chose, de pouvoir libérer ces militaires-là après leur condamnation. Donc, supposons que le Togo échouait, ou bien Faure Gnassingbé échouait dans cette médiation, parce qu'entre-temps, quand la CEDEAO ou Alassane Ouattara avait appelé la CEDEAO d'intervenir. Il y avait certains qui ont commencé par crier que non, Faure Gnassingbé a échoué, le Togo a échoué dans cette médiation. Mais finalement, les gens disent on ne fait pas confiance en la CEDEAO. C'est le chef de l'État togolais qui peut nous faire sortir de l'affaire. Et finalement, à la dernière réunion de CEDEAO, lorsque ils ont vu que leurs sanctions ne pouvaient pas passer et qu'ils ont levé la sanction, ils ne peuvent pas sanctionner, ils laissent carrément la médiation togolaise continuer. Et la médiation togolaise a continué avec la signature du mémorandum qu'il y a eu entre le Mali, la délégation malienne et la délégation ivoirienne, sous la conduite de la diplomatie togolaise. Donc vous voyez que c'est ça qu'il faut. Et finalement, la CEDEAO ne pèse plus aux yeux de certains pays, surtout de ceux-là qui sont actuellement au pouvoir, la junte au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali, même au niveau de la Guinée. Donc tout ceci-là, il faudrait qu'on puisse repenser à revoir comment la CEDEAO fonctionne actuellement, qu'elle soit la CEDEAO des peuples. Et non, la CEDEAO, des choses pour que tout le monde qui est là puisse lui faire confiance et que quand il y a quelque chose, comme les uns et les autres l'ont dit, que ce soit la CEDEAO qui règle. Puisqu'on a vu finalement que nous, Africains, nous pouvons régler nos problèmes entre nous-mêmes au lieu d'aller chercher ailleurs pour qu'on dise qu'on vient nous imposer certaines décisions alors que nous avons aussi le verbe pour parler, nous avons au moins l'intelligence pour discuter entre nous et trouver nos solutions. Et puis on va aller chercher ailleurs qui vont venir nous imposer la situation.
Alors, Sylvestre, est-ce que la leçon à apprendre alors dans cette situation, ce n'est pas la chute maintenant d'Abbas, tel que Abbas a chuté tout à l'heure pour dire plutôt que nous, en tant qu'Africains, on peut régler nos problèmes entre nous et qu'on n'a pas besoin quand même d'une ingérence d'ailleurs.
Oui, moi je crois que ça peut se faire. Ça peut se faire. Et ce qui s'est passé entre le Mali et le Togo, je dis, lorsque vous voyez le schéma, tout est politique en fait. Lorsque vous voyez qui sont venus chercher donc le pouvoir togolais, la diplomatie togolaise, c'est les Maliens. Alors si le Togo ou la diplomatie togolaise réussit, ça va de soi. C'est eux qui sont venus chercher le Togo. Ou c'est eux qui sont venus chercher la diplomatie togolaise.
Mais est-ce que c'est pas parce que le Togo a posé déjà
des actes de confiance? Non, écoutez, moi je crois politiquement que le Mali veut quand même, s'il voulait entre guillemets punir la CEDEAO, parce qu'au devant c'est la CEDEAO qui avait pris le lead, pas le truchement de Goodluck Jonathan
oui,
qui avait commencé. Mais à un moment donné, du fait donc des discours des présidents successifs de la CEDEAO, encore que le dernier qui est là aujourd'hui est Ambalo Sissoko, qui tenait des discours, on dirait, le Mali, c'est des apprentis, ou du moins, c'est des domestiques, donc, de la Guinée-Bissau. Et là, vous avez vu qu'ils ont dissuadé le ton. Ils ont mis en minorité la CEDEAO. Et en venant chercher le Togo, ils ont dit, voilà, quoi, on passe par le Togo pour réussi le coup, donc ils ont réussi le coup. Et même dans le communiqué lu par le colonel Abdoulaye, vous avez vu que ils ont trouvé des mots forts contre donc Ambalo. Donc ils ont juste se mettre entre parenthèses la CEDEAO, et ça a été fait, vous avez vu. Et au-delà la France, parce que ils ont dit dans le communiqué que depuis le 14 janvier la CEDEAO, le Mali n'est plus sur la liste des pays intimidables. Voyez-vous, donc ils sont passés par le Togo, si vous voulez, pour régler des coups donc à la CEDEAO, à Ambalo et à la France. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux, vous êtes heureux que bon, dit le Togo a réussi. Voilà quoi, c'est tout.
Oui, au même moment, c'est un peu cela. C'est pour cela que je dis que quand vous analysez les deux discours, celui de Bamako et d'Abidjan, vous allez voir au même moment, Ouattara tente toujours de réhabiliter la CEDEAO, où il traite même Ambalo de mon fils.
Tout à fait.
C'est-à-dire que quand il remerciait tous ceux qui sont intervenus dans cette affaire, il continue toujours par vouloir faire croire que la CEDEAO aussi a joué un rôle. Alors qu'au niveau du Mali, on veut même pas entendre parler. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, effectivement, le Mali a trouvé une occasion pour fragiliser la CEDEAO, massacrer la CEDEAO. Je crois qu'elle n'a pas toujours digéré les sanctions qui avaient été prises. Et je crois que tout part de là. Quelle avait été la position du chef d'État de l'État togolais lorsqu'on prenait les sanctions contre le Mali? Je crois que C'est ça qui explique un peu la sympathie que la junte militaire... Et ça, c'est, ce n'est pas un truc qui se cache. Hein. On sent que la, la junte militaire a une certaine sympathie vis-à-vis du chef de l'État togolais. Abbas l'a dit tout à l'heure, au moment où personne n'atterrissait, Faure, lui, avait la possibilité d'atterrir. Il va là-bas même sans même que les Togolais sachent qu'il est allé. Beaucoup de choses ont été faites. Ont été faites dans l'ombre, et donc c'est un peu cela, mais là, il faut dire que ce n'est pas la première fois, et c'est vrai qu'entre deux pays ça a été un peu rare sur le continent ces dernières années. Bon, on prend aujourd'hui le Congo et le Rwanda avec leurs problèmes, mais en interne il y a toujours eu quand même des chefs d'État qui ont permis de régler des problèmes dans des pays voisins. On a vu ce que Blaise Compaoré est venu faire ici en 2006, non? L'accord politique global. Il est venu, tout le monde a applaudi, y compris aussi bien le pouvoir que l'opposition. Et donc, il y a eu des situations où d'autres chefs d'État également ont permis de régler des problèmes ailleurs. Donc, ça peut arriver, c'est pour cela que je suis d'accord pour dire que, contrairement à ce que nous on a fait en 90, quand on s'est levé pour aller à Colmar, on peut régler nos problèmes ici en interne grâce à la médiation d'autres chefs d'État de la sous-région.
Est-ce qu'on peut régler vraiment nos problèmes entre nous?
Oui, c'est d'ailleurs l'idéal. Excusez-moi de peu, il n'y a que des personnes qui ne se considèrent pas, qui ne peuvent pas se mettre à la même table pour discuter. Tant qu'on a l'opportunité de le faire, nous nous comprenons mieux d'ailleurs. Nous sommes dans un contexte africain avec nos réalités. Et on ne va pas aller chercher ailleurs où on nous impose des choses, on nous considère comme des sous-hommes ou des moins que rien. Donc, dès qu'il y a un souci qui pointe le nez, on sollicite rapidement la personne en qui on a le plus confiance et qui vient jouer à la médiation. On peut.
Voilà. Et Madame Brigitte Kafouyadia Magbo, alors, nous venons maintenant à vous. Et c'est vrai que dans cette... médiation, comme l'a dit maintenant Fabrice, c'est un fait. On voit que c'est le président de la République, Fonia Singbe, qui a réussi cette médiation.
Ben, j'ai suivi ce débat avec beaucoup d'intérêt. Mais je voudrais dire que dans cette histoire-là, s'il y a un pays qui a réussi, qui a gagné, n'oublions pas, c'est d'abord le Mali, et c'est très, 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 très important. Dans l'absolu, c'est le Mali qui a gagné, qui a réussi à se faire respecter. Et je serais tenté de penser que, pour y arriver, le Mali s'est servi du Togo. Bon, il s'est fait que cette diplomatie conduite par le Togo a réussi. Hein, c'est grâce à cette action que le Mali et la Côte d'Ivoire ont pu signer un mémorandum d'entente suite auquel on a libéré les mercenaires qui ont été jugés comme des criminels et qu'on a graciés après. Tout ça est très bien, mais je me demande en quoi on peut vraiment jubiler, on peut vraiment se réjouir de ce qu'on considère comme un succès diplomatique, dans la mesure où on peut se poser la question de savoir que vaut ce qu'on a réussi ailleurs et qu'on ne pense pas à faire chez soi. Est-ce que quand même, quand on veut se propulser à ce niveau-là, on veut être considéré comme un artisan de paix, disons, hein, parce que grâce à cette action-là, on a arrangé les relations entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Est-ce qu'on ne devrait pas le faire chez soi, par l'exemple? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions à réunir pour que, de manière exemplaire, ce genre de diplomatie que l'on réussit puisse contribuer à changer le monde, à changer, à transformer les relations entre pays et à l'intérieur des pays. En ce qui me concerne, je pense que on peut dire qu'il manque quelque chose
à
ce succès-là. Mais ce quelque chose, c'est que maintenant que Fornia Singbe pense à réussir au Togo ce qu'il a réussi à l'extérieur, c'est-à-dire à mettre en pratique le dialogue avec les gens avec lesquels il y a vraiment un problème, le dialogue pour régler les problèmes et arriver à s'entendre, mais aussi un peu d'humanisme, l'humanisme qui était à la base de ces plaidoyers, de cette action pour la libération de gens qui ont été reconnus comme criminels. Eh bien, on attend que cet humanisme-là s'exprime aussi à l'égard de ceux qu'il a mis en prison, à l'égard de ceux qu'il a contraints à l'exil, et qu'on fasse en sorte que on puisse voir que ce monsieur a la pratique de ce qu'il fait faire à l'extérieur. Vous voyez, c'est en cela que pour nous Togolais et même pour les Africains, parce que oui, il y a les Ivoiriens sont contents, les Maliens sont contents, mais il y en a qui disent maintenant libérez vos prisonniers aussi. Faites la même chose chez vous. C'est ça qui manque.
Voilà. Madame, je pense que c'est aussi l'une des exigences alors pour vous, et c'est pour cela que vous organisez une rencontre, un meeting le samedi prochain, le 14 janvier, bien évidemment. Alors, concrètement, qu'est-ce qui motive alors cet appel que vous lancez encore aux Togolais à venir vous écouter?
Eh bien, c'est un appel qui se situe dans le combat que nous menons, vous le savez, depuis 2020, pour que dans ce pays-là, les Togolais, au fond, ce qui est à la base de ce combat, c'est faire en sorte que les Togolais puissent exercer véritablement le droit de choisir leurs dirigeants et des dirigeants qui tiennent compte de leurs intérêts, qui servent leurs intérêts. Et donc, dans le cadre de ce combat-là, il y a eu beaucoup d'embûches sur le chemin. On en est arrivé à une situation où la liberté même de contester, de mener des actions politiques a été confisquée. Et nous avons résolu de faire en sorte que les données changent. C'est ce que nous sommes arrivés à faire quand on a réussi enfin a organisé en fin d'année, plus précisément le 27 novembre, un meeting, le tout premier meeting depuis 2020 à Vaughan. Eh bien, nous nous sommes dit, il faut continuer ce combat. Il faut repousser les limites de l'arbitraire, les limites de la dictature. Et donc, nous avons prévu une manifestation pour le 14, un meeting pour le 14. Pourquoi le 14? C'est là où ça devient important. Vous savez que en 2023, eh bien, nous allons le 13 janvier bientôt marquer les 60 ans de l'assassinat du premier président élu qui a vraiment exercé
le père de l'indépendance.
Voilà, le père de l'indépendance et qui malheureusement a été assassiné dans les conditions que l'on sait. Quel est le message que renvoie cet assassinat-là lorsqu'on sait que la source est aussi à l'extérieur? Eh bien, c'est qu'on voulait dire aux Togolais, vous avez été trop prétentieux de penser que Vous êtes souverain. Vous pouvez choisir des dirigeants qui vous conviennent et qui, plus est, se croient en mesure de pouvoir prendre des décisions pour préserver, défendre les intérêts de leur peuple, tels que le projet de frapper une monnaie, la liberté de choisir, d'avoir des partenariats avec tous les pays et ne pas avoir de lien privilégié avec une puissance colonisatrice, encore qu'au Togo, nous étions sous tutelle. Et donc, c'est l'image, c'est la leçon, c'est le message qu'on a voulu nous renvoyer à travers cet assassinat-là. Il se fait que, depuis, nous sommes toujours confrontés à ce problème. D'élection présidentielle en élection présidentielle, nous n'avons jamais pu choisir véritablement nos dirigeants. Et ça fait 60 ans que ça dure. Nous avons pensé qu'il faut placer la suite du combat sous le signe de ces 60 ans-là d'assassinat du premier président véritablement choisi par nous et faire en sorte qu'en 2024, en 2023, que tous les Togolais, je dis bien tous les Togolais, toute la classe politique comprennent qu'on ne peut plus continuer comme ça. Nous serons tous gagnants en changeant de paradigme, en faisant en sorte que ce peuple-là, qui mérite aussi et qui a le droit de choisir ses dirigeants, qui est souverain, c'est de ce peuple que les dirigeants sont censés détenir la souveraineté, eh bien, qu'ils puissent enfin choisir ses dirigeants. Qu'ils puissent enfin voir que, eh bien, ils ont à la tête des hommes et des femmes qui pensent à eux, qui ne sont guidés que par leur intérêt. Comme les Maliens le disent, d'ailleurs. Et quand on veut faire ami avec les Maliens, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Il faut continuer sur cette lancée-là et épouser les valeurs et les principes des Maliens et faire comme les amis qu'on a voulu choisir. Donc c'est pour tout ça que nous voulons organiser ce meeting le 14 parce que c'est le 13 est un jour ouvrable, il va être difficile d'avoir un meeting. Donc, nous invitons tous les Togolais à sortir massivement. C'est un devoir, 60 ans après l'assassinat du premier président. Ça ne devrait pas nous laisser indifférents. Sortons pour dire, maintenant nous voulons qu'une solution soit trouvée. Non.
Alors, madame, une dernière question, d'abord, avant de laisser aussi les autres confrères poser des questions si ils en ont. Alors, nous savons, dans l'adresse alors du chef de l'État, déjà pour le nouvel an, il a annoncé quand même que cette année 2023 est une année électorale. Et, au niveau de la DMK, est-ce que vous participerez alors à ces élections?
Les élections ne constituent qu'un moyen. Un moyen, justement, pour faire en sorte que les peuples choisissent leurs dirigeants.
Tout à fait.
Donc, nous ferons en sorte que les problèmes qu'il y a à la base et qui font que ce peuple-là ne peut pas choisir ses dirigeants, la logique, c'est de faire en sorte que ces problèmes soient résolus en même temps. Donc, n'isolons pas la tenue d'élection en soi ne devrait pas être un problème. La participation, ça ne devrait pas être un problème si ça permet d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce qui est sûr, si il y a des gens qui pensent le contraire de ce que nous pensons, qui croient pouvoir continuer à mettre le grappin sur ce pays pendant plus de 60 ans et qui pensent que le choix qu'on va faire à l'occasion de ces élections sera un boulevard qu'on va leur offrir, ils se trompent. Et je finirai par dire que la DMK a promis de se prononcer sur cette question-là. Et ce sera en mars. Il y a eu un communiqué officiel
D'accord. Merci, madame. Fabrice, une question ?
Non, pas une question, mais bon, juste un commentaire par rapport à la fameuse date du 13 janvier, qui était doublement commémorée par le passé. À l'époque, certains festoyaient.
Tout à fait.
Et défilaient dans la rue. Pendant ce temps, c'était une journée triste pour d'autres. Et je crois que le temps a fait ce qu'il pouvait. Et entre-temps, ceux qui festoyaient ont compris qu'en réalité, ce n'était pas vraiment adéquat de festoyer, parce que ce jour-là, il y a eu quand même mort d'homme et pas n'importe lequel. C'est le premier président du pays, ils l'ont abandonné. Et le 13 janvier est devenu ordinaire, comme tous les autres jours au niveau du pays. Bon, je me rends compte que bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'opposition qui nous rappelle cette date. Mais pour la commémorer autrement, en portant peut-être un autre type de message que celui qu'on avait l'habitude d'attendre. De toutes les façons, même si la date n'est plus en rouge sur nos calendriers, et c'est une date qu'on ne peut pas non plus oublier comme cela, parce qu'elle marque quand même l'histoire de notre pays, le Togo.
C'est une date qu'on ne peut pas oublier. Et ce qu'on ne peut pas oublier aussi, c'est nos annonceurs, dans cette émission.
Et j'ajoute qu'il faut faire un saut qualitatif dans le prolongement de ce qu'il a fait. C'est très bien qu'on ait compris qu'on ne doit pas festoyer ce jour-là. Mais le saut qualitatif, nous devons le faire ensemble.
Tout à fait. Donc, je disais que ce qu'on ne peut pas oublier aussi, c'est nos annonceurs. Donc, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs et nous allons revenir juste après pour donner la parole à nos auditeurs pour des questions. 93.5. Retour dans cette émission Club de la Presse. Et maintenant, nous vous donnons la parole alors pour réagir sur l'un ou l'autre sujet débattu au Club de la Presse aujourd'hui. Alors, nous avons parlé de l'exclusion alors de l'élève Fanvi-Comblain et Loki. Nous avons parlé aussi de la libération des 46 militaires ivoiriens au Mali et sous la médiation du Togo de Faure Gnassingbé. Et nous avons aussi parlé du meeting alors de la DMK ce samedi 14 janvier. Vous pouvez réagir, c'est le moment de réagir. 22 21 33 114 91 36 63 75, c'est les deux numéros. Allô.
Allô.
Bonjour.
Bonjour mon frère.
Voilà.
Comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Ça va bien, merci beaucoup.
D'accord. À quel honneur?
C'est Patrick.
Patrick.
Voilà.
Allez-y.
Tout d'abord, je voulais dire un grand merci à monsieur Sylvestre, parce que j'ai suivi son développement. Il a beaucoup parlé. Mais j'aimerais revenir un peu en arrière sur le problème des 46 militaires ivoiriens. Je pense que beaucoup ont tendance à condamner la CDAO ou bien Mbalo pour tout ce qui se passe au niveau de la CDAO et à sa présidence. Vous savez, le Mali, ce qui se passe au Mali présentement, le problème, c'est quoi? Si c'est que Assimi était élu démocratiquement à la présidence malienne, le discours ne serait pas le même. Comprenez, suivez mes développements. Si Assimi était venu au pouvoir démocratiquement, la CDAO ne peut pas tenir certains langages avec la présidence malienne. Tout d'abord, comment ça s'est commencé? Quand il a fait le coup, il est venu au pouvoir. Mais la CDAO, lui, avait dit d'organiser des élections parce qu'ils assumaient la transition. Ils n'ont pas obtempéré, ils ont refusé. Et ils ont fait bon sang ce qui passait à leur niveau. Du coup, la CDAO ne peut pas aussi tolérer, la CDAO ne peut être complice des coups d'État. Si Mbalo n'avait pas haussé le ton à donner un ultimatum au régime malien, je vous dis que le président Faure n'allait pas réussir aussi son coup. Comprenez, suivez ce que je dis. Si Mbalo n'avait pas donné l'ultimatum, la CDAO n'avait pas haussé le ton. Puisque vous savez, en politique, beaucoup de choses se disent dans les coulisses. À Djamagoué là-bas, elle sait bien ce que je parle. Beaucoup de choses se disent, ce n'est pas tout. C'est pourquoi on vous dit, quand les djihadistes frappent au nord du Togo, ce n'est pas tout ce qui se passe là-bas, comme le général nous dit, sur les antennes. Donc, c'est vous dire que si Mbalo n'avait pas parlé comme ça, le président Faure, plutôt nous allons applaudir cette réussite du président. Parce que, rappelez-vous, le phénomène du djihadisme aussi a commencé au Mali. Et nous disons, oh, avant que ça n'a franchi les frontières maliennes venues au Burkina jusqu'au Togo, c'est encore loin. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Le djihadisme est à notre porte. Si Faure ne faisait pas cette médiation et qu'il ratait là-bas, ou bien ça ne réussissait pas, que ça s'éclatait entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous serons tous en Russie pour pleurer que voilà, ça ne va pas parce qu'il y a la guerre. On sait que le poids de la Côte d'Ivoire dans la sous-région est énorme. Bon, pour finir, c'est vrai que j'ai monopolisé un peu la parole. Pour finir, pour le jeune à question dont vous parlez, mes chers amis, moi, je ne vais pas incriminer le petit, comme Sylvestre l'a si bien dit. Vous savez, le défaut, c'est les parents. Les parents, pourquoi je dis les parents? L'éducation du garçon, nous tous, nous sommes marqués par le garçon. L'éducation du garçon est différente de celle de la fille. Là, maintenant, vous allez éduquer votre fils, est différente de comment vous allez éduquer la fille. C'est vrai que c'est vos enfants. Parce que le garçon est trop têtu. Si vous n'êtes pas dur, quand je dis dur, c'est pas frapper ou bien mettre les plaies sur votre nom. Mais il faut être un peu ferme avant envers l'enfant pour que l'enfant ne fasse pas des bêtises.
Merci beaucoup, Patrick. 22-21-33-114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, j'appelle.
Le nom, c'est.
Japon.
Oui, le nom, c'est.
Le nom, c'est. Isaka.
Isaka, vous nous appelez de Dapan?
Oui, depuis Dapan.
D'accord, allez-y.
C'est Canal FM, non?
Oui, c'est Canal FM, nous vous écoutons.
Voilà, on est très ravi. C'est juste pour vous saluer. Hein.
Merci beaucoup, Isaka.
Parce que j'avais du mal à vous avoir en direct comme ça.
Mm.
Mais par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre.
Merci.
Donc, je salue d'abord tout le plateau et que cette année soit la meilleure année de toutes les années passées.
Merci beaucoup.
Ouais, je salue surtout Monsieur Sass Gaou.
Voilà, Sass vous écoute.
Qui nous vraiment, on ne sait pas quel mot employer envers lui. Et que Dieu vous garde tous en bonne santé.
Merci beaucoup, Isaka.
Merci.
Ça fait donc, plaisir de vous écouter. 22-21-33-114, allô?
Allô, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Kossi de Sagbado.
Monsieur Kossi.
Monsieur Kossi de Sagbado.
De Sagbado, oui, allez-y.
Allô?
Oui, allez-y, Monsieur Kossi.
Allô.
Monsieur Kossi, nous vous écoutons.
D'accord. Je veux revenir sur le sujet de l'élève qui a été pour dire que il faut commencer comme ça. Je suis parent d'élève. Je suis très content qu'on a exclu ces élèves-là.
Monsieur Kossi, nous avons du mal à vous écouter. Diminuez un tout petit peu le volume alors de votre poste récepteur.
Ça va.
Ça va mieux.
D'accord. S'il est mal éduqué et qu'il amène sa maléducation à l'école pour contaminer ses camarades, pour contaminer nos enfants, que nous nous éduquons bien, il n'a qu'à aller rester avec ses parents à la maison. Là, c'est bien fait. Je reviens maintenant au sujet de ces 46 soldats ivoiriens. Là, ne mâchons pas les mots. Le président a balayé la chambre de son voisin. Il n'a qu'à balayer chez lui. Bonne émission.
Merci beaucoup, Kossi, depuis Sagbado, 22-21-33-114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, s'il vous plaît, c'est qui?
C'est Monsieur Théo.
Monsieur Théo, vous nous appelez de quel quartier?
Au lycée.
Lycée, allez-y.
Non, c'est pour passer à l'émission.
Oui, vous y êtes, allez-y.
Okay. Je salue tous les journalistes là-bas. Okay. C'est une information qui vient d'arriver et je voulais vous faire passer ça puisque les autorités puissent nous écouter.
Une information.
C'est le problème de terrain d'Alenka.
Oui, monsieur Kossi.
Oui.
Allô, monsieur Kossi. Le mieux, c'est que vous nous rappelez parce que nous débattons alors d'un sujet
le
aujourd'hui.
Oui, c'est que ils nous ont appelés aux brigades de Thiédier.
Oui, mais monsieur Kossi.
Mais ils les ont gardés là-bas. Donc, c'est pour vous avertir si un mouvement se passe à Alenka.
Monsieur Kossi. Oui, 22-21-33-114, 22-21-33-114, 91-36-63-75. Allô?
Oui.
Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Pelé.
Pelé?
Oui.
Allez-y.
Ok, je salue le plateau. Je pense qu'aucun Togolais n'a rien à perdre en soutenant ce meeting qui va se dérouler à Béakongédi. 60 ans pour une seule famille, c'est trop. Ça fait 12 mandats. Oui? Déjà deux mandats, on sanctionne des gens. 12 mandats, est-ce qu'on va penser à des Togolais? Mais nous sommes quoi dans le pays? 12 mandats pour une seule personne. Voilà, à Kara, il n'y a pas d'eau. Les femmes ne se lavent pas pendant 3 jours. dans la région des Caras, il y a trois présidents qui ont passé là-bas. Trois présidents. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Quand on parle de ce qui s'est passé au Mali, là, on veut faire quoi avec ça? Il faut balayer votre maison. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a de mal à faire, mais qu'est-ce que ça a donné? Il a mis le Togo dans un état délabré. Et son fils vient de le mettre dans un état malheureux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il faut que tout le monde se lève pour que le samedi, ah ben, quoi j'ai dit, c'est très important, merci.
Merci beaucoup, Pélé. 22, 21, 33, 74, après Pélé. Allô?
Et bonjour.
Oui, oui bonjour.
Bonne heureuse année à tous les
quatre. Merci beaucoup.
Je voulais
S'il vous plaît, nous avons l'honneur à qui?
À M. Jean-Paul Didogomé.
Jean-Paul, depuis Didogomé, allez-y.
Oui, je voulais intervenir d'abord sur l'habitation. Qu'on aime le président ou qu'on ne l'aime pas. Il a réussi là où les autres ont échoué. Aujourd'hui, nous avons aussi la BMK qui est en train de s'appuyer sur d'autres États pour se faire entendre. Ça ne marche pas. C'est aussi l'échec là-bas, il faut le reconnaître. Maintenant, concernant la date de 3 janvier, j'ai 61 ans. J'ai un frère, un grand frère, qui a 75 ans. C'est-à-dire, il avait 15 ans quand M. Timbani a été tué. Mais quand je lui demande de me parler de Timbani Timbani, et de cette époque, il ne connaît rien. Il n'y a rien. Qu'on laisse les Togolais avancer. On veut avancer. Le discours de haine, le retour toujours dans le passé, la nostalgie, ça suffit. On veut avancer. Laissons-nous avancer. Merci.
Jean-Paul, merci à toi aussi. Après oui. Jean-Paul, allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
D'accord. S'il vous plaît, c'est qui? Le nom, oui, le nom c'est
Maurice.
Maurice, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle du quartier administratif.
Administratif, allez-y. Allez-y, Maurice.
Maurice.
Oui, oui, Maurice, allez-y.
Du quartier administratif.
Oui, nous vous écoutons, Maurice, allez-y.
D'accord. Je veux réagir par rapport à la sanction du jeune. Je me demande si cette sanction...
Maurice, nous vous écoutons,
oui,
allez-y.
Je me dis, est-ce que cette sanction vraiment rend service aux jeunes? Dans un contexte d'extrémisme violent un peu partout, est-ce qu'on va laisser comme ça les jeunes parce qu'ils sont, ils ont fauté? On pouvait prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Les jeunes qui sont sortis pour faire des débrayages entre-temps ont été arrêtés et amenés dans un camp de réinsertion où ils ont été formés à l'éducation, en tout cas aux valeurs civiques. Et après, ils sont devenus des ambassadeurs auprès des autres jeunes pour défendre ces valeurs-là. Je crois que on devait plutôt aller dans ce sens que d'exclure complètement le jeune ainsi. Je me demande si c'était l'enfant du DRE. Est-ce que ce serait passé ainsi? Merci.
Merci beaucoup, Maurice. 22, 21, 33, 114. Voilà, et, c'était le dernier auditeur à l'ordre pour cette émission. Alors, nous revenons ici au plateau. Sylvestre, vous avez écouté alors les uns et les autres sur des sujets dont nous avons débattu ici. Alors, quels sont d'abord vos commentaires et...
Non, écoutez, j'ai pas de commentaire. Je crois qu'il y a un auditeur qui a évoqué un sujet qui n'a pas été discuté à l'antenne. Je crois que c'est la pénurie d'eau dans la ville de Cara.
Tout à fait.
Peut-être que ce sera aussi mon carton si je veux véritablement que ce problème là soit réglé, parce que si ma mémoire est bonne, c'est depuis octobre 2021 qu'un confrère a fait un reportage dans la ville, je crois que c'est Direct 7,
voilà,
qui avait quand même suscité beaucoup donc, de commentaires, de tollés sur la toile. Et après, depuis là, aujourd'hui, je crois que le problème persiste. Et la formule aussi trouvée par la TDE, je me demande si cette formule peut véritablement juguler le mal. Parce que si on doit procéder à la distribution par zonage, Si j'ai la malchance d'être le numéro 1, le temps qu'on finisse le numéro 10 pour me revenir, je crois que je mettrai beaucoup de temps avant donc, de trouver de l'eau. Mm. Donc il faudrait véritablement que les autorités puissent parer au plus pressé et trouver justement une formule à la ville de Cara. C'est important.
Mm, c'est important. Fabrice?
Oui, je crois que le problème d'adduction d'eau, il est général. Hein. Mm. C'est pratiquement l'ensemble du pays. Même ici à Lomé, tout le monde n'a pas l'eau. Quand on prend la structure officielle qui a le droit sur la nappe d'eau, je crois que c'est la TDE. Mm. Et je ne suis pas sûr que quand vous dépassez à Guayasier, vous allez encore retrouver des fontaines qui appartiennent à la TDE. C'est vrai qu'ils ont fait un effort de faire des canalisations, mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Et donc, au niveau de Cara, la situation est particulière. Donc, si vous allez dans la savane, c'est pratiquement chaque année. Hein. Mm. Et donc, c'est pour cela, et je crois que le gouvernement en est conscient, et beaucoup de projets, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de projets, on parle de la question d'adduction d'eau. Et j'espère que cela permettra dans un avenir proche de régler définitivement le problème d'eau dans le pays. Mais c'est un problème environnemental aussi. Mm. Et vous comprenez aujourd'hui que le changement climatique également a un impact sur notre vécu quotidien. Je crois tout ça là, doit être pris en compte mm. Pour vraiment s'inscrire dans un développement durable. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain également agit sur la nature et il récolte également des conséquences. Donc tout ça là doit être une réflexion globale pour que ce ne soit pas des solutions à la peu près par moment, mais des solutions, savoir que la population augmente et que les besoins également augmentent pour qu'on ne soit pas surpris.
Mmh. Estelle?
Oui, je vais abonder dans le même sens que mes prédécesseurs. Mmh. L'eau, c'est une denrée vitale pour toutes les populations, un produit de première nécessité. Ça se consomme dans la vie de tous les jours. Un être humain ne peut pas résister sans eau, donc ça devient un besoin urgent. C'est vrai que, selon les informations, la configuration même dans la partie septentrionale du pays cause un petit problème dans l'installation des point d'eau, mais le gouvernement doit comprendre également, comme on vient de le dire, c'est des produits de première nécessité et que les réflexions soient menées pour trouver une solution pérenne à ces types de problèmes dans les différentes localités. Donc, concernant l'exclusion en fait de l'élève, vivement que les deux parties arrive, je veux parler des parents, qu'ils fassent peut-être des démarches vis-à-vis de l'établissement et du directeur pour voir s'ils peuvent accorder leur violon et trouver une circonstance atténuante en l'enfant. On ne dit pas que ce qu'il a fait, c'est bon, c'est une faute gravissime, mais il faut que la correction soit vraiment exacte et que ça lui apprenne en fait à rectifier le tir au lieu de le jeter en pâture.
Mmh. Ah bah,
par rapport toujours au problème d'eau dans la région de Cara, je pense que cette situation prévaut il y a de cela très longtemps. Et en temps, la TDE avait prévu étendre le système d'eau, vient prendre l'eau depuis la rivière Sara. Les canalisations sont déjà faites, je ne sais pas ce qui reste pour qu'on puisse les mettre en œuvre. Puisque aujourd'hui, au niveau de la direction régionale de Cara, TDE, ils disent qu'ils ont été surpris par l'extension de la ville.
Oui.
Fabrice vient de le souligner.
Il ne devrait pas être surpris.
Donc, c'est ça. Donc, c'est que, en principe, pour trouver ces gens de source, il ne faut pas attendre que la population arrive quelque part avant d'amener l'eau. On peut faire des extensions. Peut-être ça peut attirer la population à aller construire là-bas. C'est tout comme aujourd'hui, quand vous voyez la société, il y a des extensions un peu partout qui vont même dans les contrées un peu reculées, les plus reculées. Et on fait des promotions d'installation. Aujourd'hui, Fabrice l'a souligné tout à l'heure, quand vous quittez à Dogome ou à Gouet, vous n'allez pas trouver les installations de la T2. C'est comment on les appelle?
Le système de forage.
C'est les forages que les gens installent chez eux. Donc, si Au niveau de Kara, on avait prévu ce genre de système extension d'eau pour attirer au mieux la population, pour ne pas avoir des problèmes que nous avons maintenant. Parce que, surtout dans la région septentrionale, dans le nord du pays, c'est en temps de sécheresse que nous rencontrons ce genre de problèmes.
Mmh.
Or, nous sommes qu'en Harmattan. La vraie sécheresse même arrive dans le mois de février, mars, comme ça. Lorsque ça va arriver, là, comment on va faire ça? Donc, il faudrait mettre tout le boucher d'eau pour que on n'assiste pas au pire. Là.
Merci beaucoup. Madame Brigitte Kafouya-Diamagbo, vous avez écouté vos compatriotes. Un commentaire?
Non, moi, je pense que l'unanimité est faite ici autour du fait que, bon, il est temps que les problèmes d'eau soient résolus partout après 60 ans d'indépendance et 60 ans de gouvernance par des Togolais qui sont censés prendre soin des autres Togolais, eh bien, ça pose problème. Hein, on va le résoudre à Kara, il n'y a pas qu'à Kara, même à Lomé ici, dans le Grand Lomé, à Sévier et tout ça, ce n'est pas normal. Il faut trouver une solution globale. Ce n'est pas de la mer à boire que de donner de l'eau aux citoyens. C'est un besoin fondamental.
Tout à fait.
Et puis, j'aimerais dire que il y a un auditeur, je pense que c'est Patrick, qui a semblé dire que il y avait un problème autour de Assimi Goïta parce qu'il n'est pas démocratiquement élu, ce qui expliquerait la position de la CEDEAO.
Voilà.
Mais il n'est pas démocratiquement élu, mais il a une légitimité que n'a pas ceux qui sont censés avoir été élus. Et quand il dit que la CEDEAO ne peut pas cautionner des coups d'État, elle cautionne bien des coups d'État électoraux, constitutionnels et tout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est discréditée. Et enfin, je voudrais dire à mon compatriote Jean-Paul Dadjidoukomé que je trouve bizarre sa position. Lui-même commence à dire son frère aîné de 75 ans ne sait rien sur Sivanus Olympio. Est-ce qu'il s'est posé la question de savoir pourquoi les Togolais, beaucoup de Togolais ne savent rien? Parce que on a caché pendant longtemps. C'était un sujet tabou. Et il veut avancer. Mais comment un peuple peut avancer s'il ne construit pas sur son passé? Je le trouve bizarre. Et je me réjouis quand même du fait que il y a beaucoup de Togolais qui se posent des questions, mais si lui, il ne s'en pose pas.
Voilà. Merci beaucoup, madame. Rapidement, nous recueillons les cartons de fin d'émission. Sylvestre?
Non, je n'ai pas de carton. Nous avons parlé de la TDE, je parle de la CET, les araignées au niveau d'Akato et tout ça. Là aussi, il faudrait qu'ils pensent également à cela.
D'accord, merci beaucoup. Fabrice?
Un carton vert à tous les auditeurs pour cette année.
D'accord. Estelle?
C'est la même chose, un carton vert aux auditeurs et auditrices.
Abbas?
Un carton rouge pour ceux-là qui continuent de violer les feux tricolores et qui causent des accidents.
Tout
un carton rouge aussi, normalement, pour les feux rouges-là, qui ne fonctionnent pas. Les communes dans lesquelles ça ne fonctionne pas, ces maires-là doivent se réveiller. Parce que ça cause beaucoup d'accidents.
Voilà. Madame?
Moi, je voudrais juste inviter encore une fois mes compatriotes à Kodjendi, samedi à 14h. J'y serai, j'espère.
D'accord. Merci beaucoup.
Je crois qu'ils y seront.
Justement. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à Sylvestre Béni du journal La Machette. Merci à Fabrice du journal Le Libéral. Estelle Koudounou, merci à toi, La Gazette. Merci à Abbas, La Gazette Info, bien évidemment. Alors, et merci à Abbas, Le Magnan Libéré. Merci, madame. Pour votre justement participation à cette émission, ça fait tellement plaisir. Merci à vous tous également qui nous avez suivis depuis chez vous. On se retrouve la prochaine fois. Allez, portez-vous bien. Je suis Pascal Ossou. Au revoir.